les 11 en Mongolie par la famille Durie.
Bonjour, ici Louis-Philippe Durie, puis j'ai Marc-Antoine avec moi. Marc-Antoine, explique-moi donc c'est qui qu'on est, c'est quoi qu'on fait ici?
Ben, on est la famille de 11.
Mm-hmm.
On va traverser la Mongolie à cheval.
Les 11?
Oui.
Et puis toi, tu fais partie de la famille?
Oui.
T'as quel âge, Marc-Antoine?
7 ans.
Puis t'as combien de frères et sœurs?
8.
8. C'est amusant. Cette semaine, on découvre le parc national de Terelj et nous entamons les préparatifs pour le festival de Nadam ainsi que le départ à cheval. Mais on a papa qui vient nous rejoindre, donc ça aide beaucoup. De retour de l'orphelinat, on dort qu'une seule nuit à Ulaanbaatar, puis on part les 11 en direction de l'arrêt d'autobus le plus près, puis on saute à bord et puis on se pack comme des sardines avec les locaux, sauf que le hic, on a tous les bagages sur nous autres. Puis on se dirige au parc national de Terelj. Maman, décris-moi donc un peu ce qu'on voyait en arrivant.
En arrivant dans le parc de Terelj, la première chose qu'on a vue, c'est les montagnes avec les paysages. Donc, il y a très peu d'arbres. Il y en a un petit peu sur les montagnes. On n'a malheureusement pas vu de rivière, même si on avait amené les cannes à pêche. On était un peu déçus. Puis, un peu partout, il y a des petits campements de yourtes. Il y en a peut-être 5, 6 campements où est-ce qu'il y a des yourtes. Mais à l'entrée du parc, il y a aussi l'attrait touristique du parc. Donc, il y a quelques hôtels. Je dirais plutôt que c'est des petites cabines de yourtes, là, ou des petites maisonnettes qu'on loue aux touristes. Et puis, il y a un restaurant. Donc, on a ça. Puis nous, on habitait dans la vallée. Donc, il y a des montagnes. C'est une toute petite vallée. Puis tout le tour, ben on voit les montagnes.
Savais-tu que le nom courant du parc national, c'est le parc national Gorki? Et puis, Gorki, c'est donné en honneur des grandes chaînes de montagnes qui entouraient le parc. Ensuite, après avoir arrivé au parc, on a été découvrir un monastère. Jean-Christophe, pourrais-tu m'en parler un peu?
Oui, c'était le monastère éléphant, mais ça, on le savait pas au début. Ça fait que nous autres, on avait vu le monastère en arrivant à notre yurte où on allait dormir au loin. Ça fait que le matin, on a décidé d'aller de marcher jusqu'au monastère pour le voir. Puis en arrivant, il y avait un monsieur en haut qui s'occupait du monastère en tant que tel. Et puis pour contrôler le monde qui rentrait, puis vérifier bien qu'ils enlèvent leurs souliers et tout. Puis ce monsieur-là, ben il voyait pas très bien. Ça fait que j'y avais été deux fois. Puis les deux fois, il m'aurait expliqué la même affaire. Ce qu'il m'avait expliqué, c'est que les marches en avant qui allaient vers le monastère, ben c'était la trompe de l'éléphant. Et puis que sur les côtés, à droite et à gauche, c'est un peu comme les chapeaux qu'on voit avec les gros pointus, là. Mais ça, il dit que c'était les oreilles de l'éléphant. Ça fait que c'est ça. Puis Marc-Antoine, toi, t'as pu rentrer dans le monastère. Qu'est-ce que t'as vu?
J'ai vu des tableaux. Puis chaque tableau, il y avait une histoire. Puis l'histoire, c'était de quelque chose comme des dieux ou quelque chose.
Moi, je vais compléter. C'est un monastère, c'est un temple bouddhiste. Puis quand on a monté pour arriver au temple, on a vu combien il y en avait, peut-être 200 petits dictons, écriteaux ou réflexions. Donc moi, j'en ai lu plusieurs, puis à un moment donné, ben là, c'était assez, là. Puis à un moment donné, il y a aussi toutes ces espèces de rouleaux-là, où est-ce que, quand on les a toutes roulées, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, je sais pas si t'as quelque chose là-dessus, Louis-Philippe, là, pour compléter, mais on roule ça, puis rendu au bout, ben on peut faire un vœu. Donc il y en avait à deux places, il y en avait un en haut du monastère, puis il y en avait un à mi-chemin.
Oui, mais ce que maman a dit, de plus, tous les dictons qu'on avait étaient écrits en anglais, donc ça a été agréable de lire pour nous autres, et puis c'est ainsi en mongol. Et puis, j'ai aussi découvert plus tard que l'endroit où est-ce qu'on avait été. En 1930, les moines communistes ils se sont enfuis et se sont cachés dans les caves qui étaient sculptées naturellement dans la montagne pour s'enfuir justement. Après notre visite au monastère, on a décidé d'aller en randonnée à cheval, au grand bonheur de Daniel. Donc Daniel, dis-moi donc, c'est quoi qu'on a été faire?
On a été monter les chevaux, on a monté quelques petites collines, on a vu des troupeaux de chèvres, et puis on a vu aussi des Mongols qui faisaient une yourte. On a vu le beau paysage là, de la Mongolie, puis du parc Terelj, je pense, quelque chose dans ce style. Et puis c'est ça, là.
Et puis, comment t'aimais les selles dessus des chevaux?
Les selles, c'était des selles très spéciales. Il y avait deux poignées en métal des deux bords, puis tout ça, c'était dans le milieu. Puis, il y avait une barre de métal dans le milieu de la selle qui était très inconfortable. Et puis, le coussin, il était pas mal fini, donc je chantais toute la barre de métal que je m'assis dessus pendant 2 heures. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il attachait les étriers en dessous, donc on peut pas les bouger ni rien. Et puis, ils mettent les étriers très haut, donc on avait tous mal aux genoux et aux jambes.
Pour un peu les moins chanceux comme moi, j'avais une selle en bois comparée à vous autres. Et puis, la selle en bois, je peux dire que j'ai rarement été aussi heureux d'avoir acheté une selle au Canada plutôt qu'en Mongolie pour le voyage. Mais pendant qu'on a fait justement le tour, comment ça a été? Est-ce qu'on a eu des trop moments?
Ben, moi, j'avais une selle pareille comme la tienne, Louis-Philippe, qui était en bois. C'est des selles typiques mongoliennes, mongoles. Donc, la selle typique mongole, elle a un devant en bois qui monte à peu près de 6 pouces. Elle a la même chose en arrière d'à peu près 6 pouces. C'est assez étroit. Puis, de chaque côté, qui arrive à peu près dans le haut de nos cuisses, il y a 4 belles grosses vis ou décorations de métal qui sont à peu près de 3 cm chaque par 3 cm de haut. Fait que ça tranche juste vis-à-vis le haut des cuisses. Et puis, nous aussi, les étriers, comme disait Daniel, ils étaient attachés puis très haut. Ce qui fait qu'à la fin de la randonnée, ben, je me suis retrouvée avec des bleus à l'intérieur des cuisses. Je me suis retrouvée à avoir mal au dos. Et puis, donc, on a décidé qu'on n'achèterait définitivement pas de selle australienne parce qu'on en a amené 7 pour notre voyage à cheval puis on avait prévu d'en acheter 4. Donc, en lisant plus sur nos papiers puis sur Internet, on a conclu que les selles mongoles, c'est à bannir, puis de plutôt chercher des selles russes.
Donc, comme maman a dit, c'est les selles australiennes qu'on a décidé d'acheter à la maison. Et puis ici, en Mongolie, ils vendent juste les selles australiennes qui sont les plus fancy, comme Daniel a dit, ceux en métal avec un petit coussin, ou bien ceux qui sont faits en bois. Mais pour revenir à la randonnée à cheval, Daniel, à ce que j'ai compris, à la fin de la randonnée, on a une surprise qu'on ne s'attendait pas à. Peux-tu m'expliquer un peu comment la fin de la randonnée était, puis c'était quoi notre surprise?
Oui, papa était là. Quand on est arrivé, on est débarqué d'à cheval, on avait mal aux fesses, mal aux jambes, puis ainsi de suite. Et puis, papa était là en train de nous regarder, souriant. Et puis,
on était tous surpris, effectivement, Daniel, hein, de voir papa. On s'en attendait pas parce qu'on ne savait pas exactement quand il était pour arriver. On savait quelle date qu'il prenait l'avion. Puis on savait plus, après ça, on n'avait plus une nouvelle, savoir est-ce qu'il arrive en avion de la Chine, est-ce qu'il arrive en train. Puis nous, en plus, là, le comble, c'est qu'à l'hôtel où est-ce qu'on était, au San Pat Mongolia Hotel ou Guest House, la dame, elle nous avait dit qu'on n'avait plus le droit de rester parce qu'il y avait les fêtes d'une dame qui s'en venait. Donc, on avait juste le droit de dormir 2 nuits. Donc, la 3e nuit, il fallait vraiment trouver une autre place pour dormir. Donc, on ne savait pas vraiment, on n'avait aucune idée de voir papa là.
Donc, comme maman a dit, ça a été une assez grosse surprise. Donc, je vais inviter la parole à papa. C'est quoi que tu faisais pendant le mois entier qu'on a été parti? Puis, c'est quoi les plans qui ont mené jusqu'à l'arrivée?
Ben, effectivement, moi, durant tout le mois où vous étiez parti, il fallait que je termine tous mes travaux en cours. Ben, en fait, les travaux, c'est-à-dire tout ce que... J'ai une entreprise de construction de produits métalliques, donc tout ce qui est structure, escalier, rampe, ainsi de suite. Puis ça, c'est une roue qui tourne. Il y a des projets qui sont au stade du dessin, il y a des projets qui sont au stade de la cotation, il y en a d'autres qui sont au stade de la fabrication, puis après ça, c'est rendu à l'installation. Donc, une fois que la roue est lancée, bien, on ne peut pas l'arrêter d'un seul coup. Donc, pour être capable d'arrêter tout ça, bien, à un moment donné, j'ai acheté un billet d'avion, puis je dis, bon, ben là, ma date de départ, c'est le 2 juillet. Donc, ça, c'était, disons, peut-être 15 jours, 3 semaines avant mon départ, ça, c'était la première chose qui a marqué un point d'arrêt ou un point de départ, comme on veut. Point d'arrêt si on se place par rapport à la compagnie, puis point de départ pour aller en voyage. Puis pendant ce temps-là, bien, au fur et à mesure que les jours avançaient, Moi, j'avais planifié un certain nombre de tâches à faire qui, normalement, devaient me permettre d'arriver à temps sans trop forcer. Mais le problème, c'est qu'à tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivaient. Il y a des gens qui venaient me voir et qui disaient « Bon, ben là, avant que tu partes, là, je veux que tu me fasses ça, je veux que tu me fasses ça, je veux que tu me fasses ça. » Fait qu'à tous les jours, ils se rajoutaient. Fait qu'à un moment donné, j'ai fini par dire aux gens « Ben là, non, c'est fini, là, je peux plus. C'est impossible. » Il y a juste les affaires principales que j'ai faites. Donc, les affaires principales, c'était m'occuper des animaux, parce que depuis que toute la famille était partie, il fallait vérifier, on a des vaches, donc vérifier que toutes les vaches soient correctes. On a également des chevaux, donc voir à ce que tous les chevaux soient bien. Quand il pleut, les rentrer et les mettre à l'abri. Soigner les animaux, les canards, les oies, les poules, ramasser les œufs. Fait que ça, c'était le travail sur la ferme en tant que telle. Le reste du temps, c'était finir, faire les installations sur les chantiers, puis continuer le travail de la compagnie. Tout ça pour, rendu à la fin, là, plus les nuits passaient, moi je dormais. Je me suis rendu finalement à la dernière nuit, j'ai dormi 3 heures. Pas parce que je voulais ne pas dormir, parce que je me couchais, mais je me réveillais à cause du stress du départ et puis de tout finir à boucler. Donc là, rendu à ma dernière nuit, j'avais réussi à tout organiser. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui prenait ma place sur la compagnie pour tout finir les installations et la fabrication. C'est Guillaume qui est supposé venir, qui est venu avec moi. Mon trajet consistait à... Bon, on avait bouclé le trajet d'avance.
Oui, mais c'est qui Guillaume, ça?
Ah, Guillaume, c'est le plus vieux de la famille qui est encore à la maison, qui lui devait lui aussi terminer ses choses avec l'université pour sa maîtrise et qui ne pouvait pas partir maintenant. Et il n'est pas encore... Il n'est pas encore parti. Donc, c'est ça. Avec Guillaume, on a fait le dernier booking qui restait. Je devais décider si je partais en train du Québec pour aller jusqu'à Burlington. Car mon billet d'avion, c'était Burlington, New York. New York, Tokyo, Tokyo, Beijing. Puis ensuite, je ne le savais pas encore. Donc, on a décidé peut-être une semaine avant, j'ai booké un billet d'avion pour aller de Burlington jusqu'à New York. Donc le fameux jour du départ, le 2 juillet au matin, on est parti à 4h, il me semble 4h30, tous les deux avec Guillaume. On est arrivé à Burlington, il devait être 6h. Et puis là, tout confiant, moi je sors mon papier pour faire mon booking ou checking dans l'aéroport de Burlington. La madame, elle regarde mon billet, puis elle me dit, mais l'avion, c'est pas ce matin, c'est ce soir. Whoop-a-lay. Moi, mon départ à New York, il était à 1h30. Fait que là, on commence à demander, est-ce qu'il y a d'autres avions? Est-ce qu'on peut partir avec d'autres compagnies? Elle m'a dit non, il n'y a aucune autre compagnie qui part, il n'y a pas d'autres avions qui partent sur New York ce matin.
Aïe, 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 comment t'as fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, tu ne pouvais plus prendre l'avion pour aller à New York, mais tu avais quand même un avion à New York à prendre.
C'est ça, j'avais un avion, il était 6 heures du matin, puis j'avais un avion à prendre à 1h30 au début de l'après-midi. Fait que la madame nous dit, c'est à peu près 6 heures pour se rendre jusqu'à New York en auto. Fait qu'avec Guillaume, on s'est regardé, puis on s'est dit, let's go. On n'a pas d'autre solution, c'est ça qu'on fait. Fait qu'on a, le plein était déjà fait de l'auto. Moi, j'avais fait le plein avant qu'on arrive à l'aéroport avec Guillaume. J'avais payé son plein de diesel, car c'est une diesel qu'il a. Fait que là, on a pris la route. Guillaume s'est apprêté à conduire, mais là, moi, le stress était trop important. Je regarde, peux-tu me donner le volant? Je pense que je vais stresser moi. Fait que là, j'ai pris le volant. Lui, il a pitonné sur son GPS les coordonnées de l'aéroport. Et puis là, on s'est dirigé vers l'aéroport. L'aéroport, ce que le GPS nous disait, c'est qu'on devait arriver vers 11h30 à New York.
Mais ça, ton avion était à quelle heure?
Mon avion était à 1h30.
Oh, ça fait juste, hein?
Ça fait juste. Normalement, par rapport au checking, ça fait juste. Mais il y avait un autre problème. C'est qu'on ne savait pas les conditions de trafic. Fait que si on s'imaginait comme à Montréal, il y a toujours du trafic, étant donné que New York, c'est une ville immense, on pourrait se retrouver avec une heure et demie de trafic. Fait que là, ça commençait à être vraiment stressant. Fait que là, moi, j'ai décidé de commencer à essayer d'appuyer un petit peu plus sur le champignon, puis de rouler au maximum des capacités. Les premières routes qu'on a eues, c'était quasiment de la petite route de campagne quand on était dans le Vermont. Puis là, moi, je commence à rouler. Je vais peut-être 100, 110 km/h sur cette petite route-là. Fait qu'à un moment donné, je double une auto. Puis là, je commence à voir au loin dans mon miroir, là, je vois les flashers d'une auto de police en arrière de moi. Je dis, j'essayais. C'est pour moi. Là, vous pouvez vous imaginer le stress. Là. Rater le premier avion, le stress de rouler, de ne pas savoir à quelle heure on va arriver, puis là, de voir les cerises de cette auto de police-là qui arrivait en arrière de moi. Puis là, je commençais à évaluer, à regarder les autour de moi, qu'est-ce que je pouvais faire. Je me dis, bon, est-ce que j'ai la possibilité de voir une petite route, puis de m'emmancher tout de suite dessus pour aller me cacher, pour éviter qu'il m'attrape. Puis quand j'ai vu une route pour le faire, bien, là, il était trop tard. Il m'aurait vu, ça ne me donnait plus rien. Donc là, j'ai gardé mon chemin, puis j'ai continué. Quand il est arrivé en arrière de moi, je peux vous dire une chose, le stress était assez fort que les jambes commençaient à me shaker. Alors on en rit, mais je vous raconte, sur le coup, c'était pas drôle, pas en tout, pas en tout. Fait que finalement, l'auto est arrivée, puis rendue derrière moi, elle m'a dépassé à fond de train, puis elle a continué. Ah.
Quel soulagement!
Fait que là, j'ai continué à rouler, mais j'ai roulé un petit peu plus proche des limites. Les limites étaient à 80, puis disons que je roulais à peu près à 100. Puis finalement, on a roulé comme ça pendant quasiment une heure et demie. Après ça, on a rejoint l'autoroute. Là, sur l'autoroute, là, ça a commencé à aller mieux. Là, on a roulé plus vite. Puis ce que je cherchais à faire durant tout le temps du trajet, c'est de gagner du temps par rapport à ce que le GPS prévoyait. Donc au début, il me prévoyait m'arriver à 11h39. Finalement, quand j'ai rejoint l'autoroute, j'avais gagné 10 minutes. Donc, j'étais rendu à arriver à 11h29. Puis là, l'autoroute, ben, là, ça a commencé à bien aller sur l'autoroute. Là, ça roulait, on pouvait rouler au maximum. Je roulais peut-être 120 tout le long. Là. Finalement, là, on a eu du trafic. On est arrivé pour prendre le Golden Gate, puis là, ça a ralenti. On avançait à, je sais pas moi, 10 à 20 km/h. Mais ça n'a pas été si pire. Ça a duré, on a perdu une dizaine de minutes. Puis là, après ça, le trafic là, a recommencé à... Ça a commencé à bien rouler. Fait que là, moi, tout ce que je faisais, j'ai dit à Guillaume, je regarde là, je suis pas capable de regarder le GPS, puis en même temps de conduire. C'est une ville nouvelle, des conditions complètement différentes. Fait que tout ce que Guillaume disait, il dit, bon, là, tu prends à droite, là, tu serres à gauche. Fait que c'était simplement le copilote. Et puis moi, je roulais. Donc, on est allé comme ça jusqu'à l'aéroport. Puis finalement, à 11h, on avait encore notre 20 minutes d'avance quand on est arrivé à l'aéroport. Là, je suis rentré, je suis allé faire mon inscription pour mon billet d'avion. Puis la madame nous a dit, bon, ben là, vous y allez tout de suite, il faut passer les douanes, puis il faut tout de suite aller vous préparer pour l'embarquement. Fait que là, j'ai salué Guillaume, et puis après ça, là, c'était le départ pour l'avion.
Puis dans ton avion, après ça, quel trajet t'as fait?
Ben, le trajet, c'est ça, là, tel que je vous avais mentionné tout à l'heure. Donc, le premier vol, la première partie se faisait de New York à Tokyo. Ben, en fait, en gros, là, pourquoi sur une ligne, pourquoi Japan Airlines? J'ai pris mes billets sur Expedia.com et puis j'avais le choix entre des avions de la Russie et puis des avions du Japon. Puis bon, un petit feeling, là, j'ai préféré prendre les avions japonais, qu'on ne sait jamais. Je voulais être sûr que l'avion soit en bonne condition.
Sinon, on peut dire que l'ambiance avec les Japonais va être plus agréable que les Russes.
Ben moi, je n'ai pas vécu l'ambiance avec les Japonais, mais ce que je peux vous dire dans mon vol, là, c'est que y a du personnel en masse, des hôtesses souriantes. J'ai eu le droit à 2-3 bouteilles de vin à chaque repas, autant que j'en voulais, des très bons repas.
C'est pour ça que l'avion a bien été. Mais une fois arrivé en Chine, c'était quoi le plan pour nous rejoindre justement au parc national, là?
Ben en fait, après ça, il y a eu le changement entre les deux. Arrivé à Tokyo, je devais changer d'avion. Mais là, je n'ai pas eu besoin de sortir de l'aéroport. J'ai eu simplement besoin de repasser à la douane, donc être fouillé. Et puis là, ensuite, j'ai rembarqué dans l'autre avion. Je n'ai pas vu Tokyo parce qu'il pleuvait. C'était 7h du soir à peu près. Et puis, il pleuvait. Donc là, on a redécollé. On est arrivé à Beijing. Donc, en arrivant à Beijing, il y avait normalement un ami... Guillaume a un ami chinois avec qui il est à l'université. Et puis, son ami à ce garçon-là est à Beijing. Donc, c'est cet ami-là qui nous a aidé à obtenir le visa chinois et qui devait m'accueillir à l'aéroport de Beijing.
Mais là, le visa, il avait été fait préalablement du vol et non seulement arrivé là-bas.
Oh oui, le visa, il était fait d'avance. Il était fait quasiment un mois d'avance où on s'est rendu à Ottawa, à l'ambassade de Chine.
Puis Beijing, là, c'est pas ça, là, une grosse ville là, qui a, je sais pas moi, qui est grosse comme la Belgique. C'est pas ça que tu nous avais dit, puis qui prend, je sais pas, 6 heures à traverser d'un bout à l'autre.
C'est en plein ça. Beijing, là, c'est immense. C'est une très, très, très grosse ville. Mais étant donné que je ne savais pas si le jeune homme allait être là, Il y avait une demoiselle avec qui j'étais assis à côté dans l'avion, qui, elle, s'en allait en Chine, que j'avais remarqué, qui après ça, ben, dans le deuxième avion, j'étais plus avec elle, mais après ça, je suis allé la voir, puis je suis allé lui parler, ben, je savais qu'elle parlait anglais. Puis j'ai demandé si elle pouvait m'aider à appeler sur le cellulaire pour vérifier si l'autre personne qui devait m'attendre allait être là. Puis finalement, ben, c'est ça qu'elle a fait, là. Elle a appelé sur le cellulaire, puis elle m'a aidé à sortir.
Puis c'était quoi tes plans là, pour aller de Beijing à Ulaanbaatar? Qu'est-ce que tu avais prévu de faire?
Bien, de Beijing à Ulaanbaatar, le premier plan, c'était de prendre le transsibérien. Donc, je pensais avoir le temps. En fait, normalement, j'avais le temps parce que j'avais une nuit complète qui me permettait de choisir, de prendre mon billet de train puis partir. Donc, avec le jeune Chinois, là, on a pris l'autobus, un premier autobus pour se rendre jusqu'à la gare internationale de Beijing, la gare centrale. Puis de là, on est allé voir pour acheter le billet de train. Là, il nous a dit, bon, ben, c'est pas là, il faut aller à l'hôtel international, le Beijing International Hotel, donc, qui n'était pas très loin, qui était à peu près 10 minutes de marche. Mais 10 minutes quand même avec un sac qui pesait à peu près 30 kilos sur le dos, je peux vous garantir que c'est loin. Donc on est allé à cet hôtel-là, et puis le kiosque, ben, c'est une genre de petite agence de voyage qui vendait les billets de train, elle était fermée. Puis elle rouvrait le lendemain matin vers 9h du matin, de 9h jusqu'à midi.
Mais là, les billets de train qui se rendent de Beijing jusqu'à Ulaanbaatar, ça se vend pas tous les jours. Hein. Puis les départs, à ce qu'on prend, je comprends, ne sont pas tous les jours plutôt que...
Non, mais en fait, ça, on avait planifié quand même que le lendemain, à 7h45, il y avait un départ, il y avait un train qui passait, qui était le K3, il me semble, qui, lui, se rendait jusqu'à Ulaanbaatar.
Sinon, le prochain, c'était quand?
Celui d'après, c'était une semaine plus tard.
C'est ça.
C'est intéressant.
Là, on avait le choix. Là, on a commencé à se renseigner. Guillaume, en fait, l'ami, le garçon chinois, a appelé son ami avec le cellulaire sur Skype. Et puis là, on se parlait par cellulaire. Puis à l'autre bout, Guillaume, avec l'autre ami chinois, il cherchait sur les sites Internet quelle autre solution on pouvait prendre pour se rendre jusqu'à Ulaanbaatar. On a trouvé une autre solution qui était prendre un train pour se rendre jusqu'à Yeonho, qui était une ville frontière entre la Mongolie et puis la Chine. Ensuite, il fallait descendre du train, passer les douanes, et puis ensuite rembarquer à nouveau dans le train ou rembarquer dans un autre train et se rendre jusqu'à Ulaanbaatar.
Finalement, est-ce que c'est l'option du train qu'on a décidé de prendre ou bien...
Ben, je commençais à trouver ça compliqué. Avec le gros sac que j'avais déjà traîné depuis un bon bout de temps, là, je me suis dit, là je suis tanné. Là. Fait que l'ami le garçon chinois a commencé à chercher sur son portable, puis il m'a dit, bon, regarde, j'ai trouvé un billet d'avion à 2200 yuan. Bon, j'ai dit, let's go. Et moi, j'ai fini de tourner en rond, là, je veux pas me taper toutes sortes de problèmes, puis je sais pas quand est-ce que j'arriverai à Ulaanbaatar, je prends un billet d'avion pour le lendemain. Donc là, on a fait demi-tour, on est allé avec lui, je suis allé dormir dans son dortoir de son université. Au début, il voulait que je dorme dans son bureau où lui travaille, mais la porte était fermée, fait qu'on n'a pas pu y aller. Fait qu'on est monté dans sa chambre. En fait, c'est pas sa chambre, c'est un dortoir, parce que c'est une pièce dans laquelle il y avait trois autres personnes qui dormaient. Donc ils sont arrivés, moi je suis rentré, j'ai étendu mon matelas à par terre, sorti mon sleeping bag, puis je me suis couché. Je peux vous dire que je me suis endormi.
Le lendemain matin, c'était le vol jusqu'à Ulaanbaatar?
Le lendemain matin, on s'est levé à 8h à peu près. Je suis allé avec lui, on est allé se laver. Mais quand on se lave, c'est pas prendre sa douche là. Dans une université. Il y a un grand lavabo. Fait que lui, il est parti avec sa petite bassine, son savon, son papier de toilette, sa brosse à dents. Puis là, ben moi, je l'ai suivi. Fait qu'on s'est lavé un peu la face. Puis après ça, on est parti déjeuner. Je suis allé déjeuner dans la cafétéria de l'université. Déjeuner chinois par excellence. Et puis là, il me dit, bon, ben, il dit, on a beaucoup de temps, là, on va-tu visiter un petit peu avant de partir? Je dis, non, avec l'expérience de la veille, là, que j'ai failli rater l'avion, je dis, non, là, j'aime mieux qu'on s'en aille tout de suite à l'aéroport. Je dis, si on a du temps, là, on ira manger ensemble, je te paye le restaurant, puis... Mais j'aime mieux me rendre tout de suite à l'aéroport. Et puis, comme de fait, là, on s'est rendu, ben, en premier, on devait se rendre jusqu'à l'endroit où il y avait le train, on a pris un taxi. Là, il a commencé à y avoir du trafic. Donc la veille, on avait pris l'autobus, puis ça nous a pris une demi-heure peut-être. Mais là, rendu là, ça nous a pris... On arrivait à l'aéroport, je pense, il restait 3 heures avant le départ de l'avion.
Puis encore une fois, merci de nous avoir écoutés cette semaine. La semaine prochaine, on vous rejoint encore une fois pour les fêtes du le Festival du Nadam, les préparations, puisqu'on a enfin trouvé nos chevaux, ce qui rend tout le monde très heureux. Et puis, avec l'arrivée de papa, on va vous dire un peu le itinéraire qu'on va prendre parce que les décisions se prennent cette semaine-ci. Donc, rejoignez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Bye!